France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 11 septembre. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron, arbitre d'un match entre la Fédération de football et la ministre des Sports, en désaccord sur la façon de lutter au mieux contre les dérives homophobes dans les stades. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Ils sont des dizaines de milliers à avoir tout perdu. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter aux Bahamas. Le patron de General Electric France, visé par une enquête préliminaire, l'avenir du train des primeurs se joue aujourd'hui, et puis une toute jeune Jeanne d'Arc filmée par Bruno Dumont et chantée par Christophe.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, Léa.
C'est la guerre médiatico-économique de la rentrée. Cette nuit, Xavier Niel a trouvé un accord avec les patrons de BFM. Il a rétabli le signal sur sa box après l'avoir coupé pendant près de 2 semaines. Est-ce vraiment une méthode? On pose la question au patron d'Orange, qui lui aussi a coupé BFM pendant 36 heures. Stéphane Richard est notre invité à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'eurodéputé, vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Emmanuel Macron a donc sifflé hier soir la fin de la récréation, souhaitant que tout le monde travaille ensemble pour vaincre le fléau de l'homophobie dans le sport. La polémique a démarré hier matin avec les propos du patron de la Fédé, Noël Le Graët, qui s'est prononcé contre l'arrêt des matchs en cas de chant ou de banderole homophobe. Pour lui, seuls des cris racistes ou des mesures de sécurité peuvent justifier un arrêt du jeu. Une position très vite dénoncée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Le chef de l'État a donc tenté hier soir de ramener le calme.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer pour dire qu'on ne saurait accepter ce qui se passe. Et après, c'est le discernement de l'arbitre, c'est le rôle aussi évidemment de la Ligue avec les clubs. Voilà, la ministre est dans son rôle. Il faut maintenant que la Ligue, les clubs prennent leurs responsabilités, parlent à leurs supporters. Il ne faut pas édicter une règle fixe. On ne va pas se mettre à mettre des règles qui seraient comme des lois qui tombent. Sinon, je ne sais pas si vous êtes supporter de foot, moi je sais en tout cas comment j'organiserai les choses. Je ferai des insultes à 5 minutes de la fin d'un match que je suis en train de perdre. Bon, donc il faut être intraitable sur le fond. Il faut que les discours de haine, qu'ils soient racistes ou homophobes, cessent. Ça suppose un engagement de toute la famille du football. Et donc la ministre est dans son rôle en le demandant. Et je pense ensuite qu'il faut du pragmatisme et du bon sens. C'est à la Ligue et au club de le faire avec leurs associations de supporters. Et voilà, progressivement, qu'on améliore les choses. Il ne faut pas perdre de vue ce qui nous rassemble tous, qui est l'esprit de concorde et la pacification de tout ça.
Un propos recueilli par Cyril Graziani, Noël Le Graët et Roxana Maracineanu, qui ont ensuite passé 90 minutes côte à côte au Stade de France pour le match des Bleus. Sourire de façade, mais visage crispé, pour assister à la victoire des hommes de Didier Deschamps 3-0 en match de qualification pour l'Euro 2020. Une réunion sur la lutte contre l'homophobie est par ailleurs prévue cet après-midi au siège de la Ligue. Clubs de supporters et associations de lutte contre les discriminations ont été conviés. À 7h15, dans le Zoom de France Inter, reportage aux Pays-Bas qui a su lutter contre ce fléau.
Il est 7h03, Agnès, coup de projecteur ce matin sur la situation aux Bahamas.
8 jours après le passage de l'ouragan Dorian, l'archipel est plongé dans une crise humanitaire sans précédent, aux 50 victimes recensées, et certaines voix estiment que le bilan pourrait atteindre le millier de morts, s'ajoutent 70 000 sans-abri. À Abaco et Grand Bahama, les îles les plus touchées, rien n'a résisté à la force des vents. De nombreux habitants ont donc été contraints de se réfugier à Nassau. C'est là que les envoyés spéciaux de France Inter, Thibault Lefebvre et Gilles Gallinaro, ont rencontré Marie Ferguson.
Hier encore, elle vivait dans ce qu'il restait de sa petite maison cossue du quartier résidentiel d'Airock, au sud de l'île de Grand Bahama. Marie Ferguson a décidé en une matinée de tout abandonner avec son mari et ses 4 enfants. Une vie rassemblée à la hâte dans 3 valises et donc une première nuit passée au milieu des 500 sinistrés, réunis depuis quelques jours dans un gymnase de la périphérie de Nassau.
C'est arrivé tellement vite. C'est quelque chose à quoi nous n'étions pas du tout préparé. Une des principales raisons pour laquelle nous avons décidé de partir, c'est parce que le pétrole a pénétré la nappe phréatique et on nous demande de ne pas dormir sur place.
Les fuites viennent d'une raffinerie norvégienne. Les toits des citernes ont été arrachés par le vent.
Et le pétrole est parti sur des 2 kilomètres à la ronde, à tout polluer.
Des dégâts monstrueux, ce sont les mots de Max Bordet.
Il a fait exploser du béton.
Ce bénévole du Secours Populaire était à Airock hier après-midi.
Les écoles ont explosé, le poste de police a explosé, là où il y a les pompiers, ça a explosé. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Donc il faut faire un choix. Elle n'a pas d'autre choix si elle a des enfants que de quitter la zone.
Près de 5000 personnes comme Marie et sa famille sont arrivées à Nassau depuis la réouverture. Il y a 3 jours, des vols réguliers entre la capitale bahaméenne et les îles ravagées par Dorian.
Reportage de Thibault Lefebvre et Gilles Gallinaro. Iran, Venezuela, Corée du Nord, Afghanistan, ils n'étaient d'accord sur rien. Donald Trump a limogé hier sans ménagement son conseiller spécial à la sécurité intérieure, le très vatant guerre John Bolton. Ce départ soudain pourrait permettre un assouplissement des relations avec Téhéran. Le président américain s'est hier soir prêt à rencontrer son homologue iranien sans condition préalable. C'est une nouvelle promesse de campagne de Benjamin Netanyahou qui provoque une levée de boucliers. L'ONU dénonce une perspective dévastatrice pour la paix dans la région. Le premier ministre israélien a en effet promis, en cas de victoire, d'annexer une partie de la Cisjordanie, la vallée du Jourdain, une zone touristique fertile où de nombreuses colonies juives sont installées. Frédéric Mettezo, le correspondant de France Inter à Jérusalem.
Baguette de professeur à la main et carte de la région derrière lui, Benjamin Netanyahou a rejoué le même rôle qu'aux élections d'avril dernier. D'abord, son service de presse annonce une déclaration dramatique dans quelques heures. Puis il évoque l'annexion d'une partie de la Cisjordanie et il se replace au centre du jeu en obligeant ses opposants à réagir. Ainsi, le mouvement bleu-blanc, son principal concurrent, estime que Netanyahou veut surtout annexer les électeurs. Mais son leader Benny Gantz considère aussi que la vallée du Jourdain fera éternellement partie d'Israël. À une semaine d'élections sans doute serrées, le premier ministre candidat veut remobiliser l'électorat de droite, mais cette annonce télévisée de l'après-midi pourrait vite être occultée par les images des réseaux sociaux hier soir. Un bibi évacué en plein meeting à Ashkelon dans le sud du pays à cause de roquettes tirées depuis Gaza. Des images pas forcément à l'avantage du monsieur sécurité d'Israël. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et à 8h15, l'analyse de Piraski.
Il est 7h07, un séisme dans le ciel déjà troublé de General Electric.
La filiale française du géant américain de l'énergie est sous le feu des critiques depuis l'annonce au printemps dernier de la suppression de 1000 emplois en France. Une enquête est également ouverte sur les conditions de la vente d'Alstom à General Electric en 2014. Et puis l'on a appris hier que la justice française a ouvert une enquête sur le patron français de la filiale, Hugues Bailey, ancien conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy, et visé pour prise illégale d'intérêt. Explication signée Corinne Audouin.
Entre 2014 et 2016, Hugues Bailey est conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, où il s'occupe des exportations. L'homme quitte ensuite Bercy pour entrer chez General Electric en novembre 2017. Il en est devenu, en mai dernier, le directeur général France. Ce transfert du public vers le privé avait à l'époque été validé par la commission de déontologie de la fonction publique, sous certaines réserves cependant. Mais en juin dernier, la députée Delphine Bateau découvre que General Electric France a bénéficié en 2016 d'une aide publique à l'exportation, une garantie bancaire de 70 millions d'euros. Le dossier relevait des compétences de Hugues Bailey, conseiller export à Bercy. De quoi soupçonner une prise illégale d'intérêt, explique Delphine Bateau.
Ça pose question, si vous voulez. Les membres de cabinet ministériel doivent défendre l'intérêt général. Quelqu'un qui supervise un dossier d'aide à une entreprise et puis qui, comme par magie, assez rapidement après avoir quitté ses fonctions de conseiller ministériel, se retrouve dans des responsabilités très importantes à General Electric, ça pose un problème évident.
Du côté de General Electric, on assure que ces accusations sont totalement infondées et que Hugues Bailey fournira aux enquêteurs tous les éléments permettant de réfuter ces allégations.
Justice encore avec la décision hier du tribunal de Paris d'autoriser la sortie aujourd'hui du livre de Tariq Ramadan, Devoir de vérité. Le prédicateur mis en examen pour viol y donne sa version des faits et cite à 84 reprises le vrai nom d'une des plaignantes, connue dans la presse sous le nom de Christelle. La jeune femme avait demandé à la justice d'interdire la sortie du livre, ce qu'elle n'a pas obtenu. Pas de répit aux urgences, l'intersyndicale a décidé hier de poursuivre la mobilisation, estimant ne pas avoir été entendue sur l'ouverture de lits, la revalorisation des salaires et les recrutements. La CGT appelle d'ailleurs à manifester cet après-midi à Paris. Et puis le mouvement de grève après-demain à la RATP s'annonce très suivi. Certaines lignes de métro pourraient même être fermées. Et on reste sur les rails avec une réunion ce matin sur l'avenir du train des primeurs entre Perpignan et Rungis. Cette liaison a été suspendue mi-juillet, en principe jusqu'au 1er novembre. Mais pour reprendre, de gros travaux sont nécessaires. Laurent Kramer.
Sauver ce train des primeurs implique de moderniser et de transformer la ligne Perpignan-Rungis. 75 wagons réfrigérés aujourd'hui hors d'âge et abandonnés par la SNCF, estime la CGT des solutions existent pour relancer la ligne, mais les grandes entreprises de primeurs sont déjà parties et personne ne veut payer pour sa modernisation, estime Charlotte Tillien de l'Union départementale CGT à Perpignan.
L'inquiétude, c'est que le matériel aujourd'hui, il n'y a pas d'audit, que la maintenance, elle n'est pas faite non plus, et les transporteurs qui devaient charger le train n'y sont plus non plus. Donc le 1er novembre, pour le moment, ça nous paraît compliqué si l'État n'intervient pas directement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'État et le gouvernement soient clairs sur sa volonté de soit développer le fret ferroviaire ou soit de partir sur du tout routier.
20 à 30 millions d'euros seraient nécessaires pour moderniser ce train des primeurs, mettre en place un nouveau système de caisses frigorifiques que l'on pose directement sur le train plutôt que de le charger et le décharger. Système déjà en place sur l'autoroute ferroviaire et concurrente Barcelone-Luxembourg. Opéré par le fret SNCF et la RENFE.
Le gouvernement supprime deux nouveaux pesticides accusés de tuer les abeilles. Le décret paraît aujourd'hui au journal officiel. Il s'agit du sulfoxaflor et de la flipura difurone.
Il est 7h11, Agnès, et on termine avec les sorties ciné du mercredi. Et c'est le visage d'une toute jeune fille qui capte l'attention.
Celui de Lise Duplat-Prudhomme qui interprète Jeanne d'Arc dans le deuxième volet que Bruno Dumont consacre à la jeune guerrière. Un long métrage consacré cette fois à la bataille contre les Anglais et au procès de Rouen. Corinne Pellissier.
Je voulais vous parler pour vos villes.
Un regard noir qui vous fixe, imperturbable et accusateur. Lise Duplat-Prudhomme est à 10 ans l'incarnation de l'innocence absolue. Une Jeanne d'Arc, tout sauf exaltée à l'approche de son procès qui va la condamner au bûcher.
Vous soumettez à l'église tout ce que vous avez fait ?
Mais oui, mon maître, je veux bien, moi !
Tout ! Sans exception.
Tout sans exception.
Dans la lignée de son précédent Jeannette, Bruno Dumont continue ici de creuser sa vision mystique du personnage. Des dialogues toujours empruntés à Charles Péguy d'une modernité désarmante sur la dureté des rapports sociaux, le dogmatisme et la cruauté des hommes.
Les hommes sont impies. Les hommes sont cruels.
Le texte est le texte de Péguy. Mais quand je filme le procès, je filme autre chose en fait. C'est pas le procès, les conversations religieuses, les joutes oratoires, théologiques, elles parlent de quelque chose qui est très contemporain. Il y a forcément des correspondances avec le monde d'aujourd'hui, avec la politique. Il y a quelque chose qui n'a pas changé, mais c'est la nature humaine.
Des anachronismes aussi que les puristes maudiront, l'âge de Jeanne d'Arc au moment du procès, quelques arrangements du réalisateur avec l'histoire, question pour lui d'universalité, le tout transcendé par la musique planante du chanteur Christophe. Il a composé 4 morceaux pour accompagner notamment la bataille perdue contre les Anglais, l'une des plus belles scènes du film, sans faste, inspirée des chorégraphies de la garde républicaine.
Oh mon Dieu, je savais la douleur.
Jeanne de Bruno Dumont est un film inter. Il sort aujourd'hui sous les écrans, tout comme Deux mois de Cédric Lapiche.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom sur la recette gagnante des Pays-Bas contre l'homophobie dans le foot.